question était si ce que vous démontrez très bien, que la figure du juge Bush de la loi correspond au modèle républicain et à une réponse du roi Bush de la loi, hein, donc c'est un peu l'antithèse du roi Bush de la loi, comment se fait-il que précisément cette figure a eu le plus de succès là où on était dans un modèle monarchique qui était celui de la France? Donc je veux dire, dans un modèle de professionnalisation, etc., c'est précisément là que le modèle juge Bush de la loi, donc dans le droit continental et en particulier dans le droit français, que cette expression est devenue un dogme, alors même qu'elle était pensée pour un système qui était complètement différent, qui fonctionnait tout à fait différemment et qui fonctionne encore aujourd'hui différemment. J'ai répondu à partir d'éléments presque philosophiques, c'est-à-dire la reprise par Beccaria, la vulgarisation de la pensée de Montesquieu au moment de la rédaction du Code civil dans les débats qui ont eu lieu. Alors, est-ce que c'est parce que vous dites Montesquieu s'oppose à la codification, enfin à l'idée de codification, le fait est que la codification a eu lieu. Donc, est-ce que c'est la juxtaposition d'une part de la codification et d'autre part de la vision républicaine de Montesquieu, c'est les deux mis ensemble par les révolutions, enfin par la postérité de la révolution, qui a contribué à cette dogmatisation ou comment vous avez dit, au fait de figer la Bush de la loi? Ou est-ce qu'il y a, alors il y a des éléments sociologiques et vous dites que vous n'entrez pas trop, mais est-ce que vous avez peut-être une idée de ce qui a tant séduit, en fait, dans la tradition monarchiste française, même une fois la monarchie disparue, même une fois la République proclamée, il est évident que la culture française, la tradition française a gardé des éléments qui étaient décrits par Montesquieu comme des éléments monarchiques. Elle n'est pas devenue une république au sens anglais. On n'a pas vu les jurys populaires dans un temps très court, mais ça n'a pas duré. Les juges ont été professionnalisés. Les juges sont restés une sorte, malgré tout, de corporation ou de milieu. Comment ça se fait que c'est dans ce milieu-là qu'on a le plus apprécié, au fond, la formule du juge Bush de la loi?
C'est une question passionnante. Non, c'est une question passionnante.
Parce que finalement, c'est ça qui s'est passé.
Je ne suis pas du tout certaine d'avoir suffisamment d'éléments de réponse. On peut simplement formuler quelques hypothèses, mais je dirais que ce sont vraiment des hypothèses. Il faudrait peut-être d'autres personnes ici sont-elles mieux placées pour répondre. Je conjuguerais peut-être deux éléments de réponse. Il me semble, mais ça c'est peut-être mon côté tocquevillien, dans la postérité de Montesquieu, dans l'esprit général français post-révolutionnaire, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Il y a d'une part ce qu'on a appelé le logicentrisme révolutionnaire, bon, à tort ou à raison, aujourd'hui on rediscute sur ce syntagme, mais c'est quand même quelque chose. L'autorité de la loi, avec les éléments rousseauistes qui sont effectivement portés par la déclaration, la loi expression de la volonté générale, etc., expression de la souveraineté de la nation, bon, le légicentrisme. Et d'autre part, quelque chose qui survit de la monarchie, qui est ce que vous appeliez l'esprit de corps, et puis des survivances d'anciens régimes, qui sont particulièrement prégnantes dans la magistrature. Alors quand même, c'est très frappant de voir que la terminologie qui, dans beaucoup d'autres domaine a été réformé, ne l'a pas été, le greffe, enfin, etc. Les professions judiciaires gardent souvent leur nom d'ancien régime. Certaines pratiques ont sans doute évolué, mais il est certain qu'il y a des survivances d'ancien régime, et vous disiez monarchique, même lorsqu'on est devenu républicain. Et on dit toujours que la France, et même dans la Ve République, reste une forme de monarchie. Je crois que c'est frappant par rapport à ce que vous vivez ici, qui est une monarchie, mais à certains égards peut-être plus républicaine. Donc, pour reprendre Montesquieu, il y a des républiques qui se cachent sous la forme de la monarchie, des monarchies qui se cachent sous la forme de la République. Bon, la France, en un sens, c'est une république qui se cache sous la forme de la monarchie, plutôt une monarchie qui se cache sous la forme de la République. Mais disons qu'on a cette double survivance. Peut-être qu'on aurait ici un élément d'interprétation, dans le sens où, précisément, l'association du légicentrisme et d'une certaine... Alors, le rapport à la justice est compliqué, parce qu'évidemment, dans la formule Bush de la loi chez Beccaria, comme chez Mayagara, c'est une défiance.
Oui, c'est une limitation.
C'est une volonté de limiter le pouvoir du juge, de le neutraliser, c'est une forme de défiance à l'égard de son arbitraire, de sa subjectivité, de ses passions, de sa possible corruption. Bon, tout ça Alors qu'en France, on est plutôt, il me semble-t-il, là aussi du côté d'esprit général, dans un pays pas très protestant, c'est-à-dire aussi où, effectivement, les risques de corruption demeurent assez forts, etc., etc. Alors, est-ce que la défiance demeure, et du coup, la figure de la bouche de la loi est une façon de se rassurer en se disant, bah, peut-être que, justement, on va éviter la corruption ? Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. En tout cas, c'est vrai que le légicentrisme a sans doute largement contribué, et on voit ça, par exemple, chez Durkheim. Durkheim qui, lorsqu'il... Il aborde les questions, par exemple, il aborde Montesquieu, considère que Montesquieu, bon, c'est le premier grand sociologue, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais en même temps, il n'a pas su rompre avec l'illusion légicentriste. Donc, même avant la Révolution, cette illusion, bon, existait dans la philosophie politique en général, et elle s'est perpétuée au XIXe siècle, et c'est une illusion qui, selon lui, n'a été rompue précisément que par lui-même, c'est-à-dire le frère.
Ce qui est paradoxal, c'est que je ne pense pas que dans le... Je ne crois pas que dans le monde anglo-saxon, la bouche de la loi soit une figure parlante. Je veux dire, c'est une figure connue, mais ce n'est pas forcément la figure de référence. Alors qu'il y a dans la tradition francophone et française en particulier, une espèce d'évidence, comme s'il était évident que c'est ça l'idéal. Ce qui est contestable et qui est aujourd'hui contesté, mais c'est, je m'interroge un peu sur la genèse justement de cet idéal et de paradoxal par rapport à l'usage qu'en fait Montesquieu lui-même, comme vous l'avez démontré. D'accord,
il y a peut-être pas une réponse. Peut-être pour prolonger, parce que bon, vous connaissez bien Dworkin, et c'est vrai que Dworkin donne des éléments de réflexion très intéressants sur ce que peut être un rôle fort du juge, disons. Plusieurs métaphores herculéennes, romanesques, enfin, etc. Il est clair que, à ma connaissance, on n'a pas d'analogue chez nous de cette réflexion sur le travail du juge de ce point de vue-là. Et peut-être est-ce lié aussi au fait que les juges constitutionnels chez nous ont quand même eu moins de pouvoir. Il me semble, alors vous savez ça peut-être sans doute mieux que moi, mais il me semble que la réflexion sur le rôle du juge en particulier aux États-Unis, elle a beaucoup eu lieu aussi autour de la Cour suprême.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, pour limiter ce pouvoir, ou en tout cas pour dire qu'il n'a pas de légitimité à s'exprimer, on nous ressort Montesquieu, c'est-à-dire on ressort le juge bouche de la loi. Donc c'est ça, c'est ce paradoxe-là pour les juristes qui est un petit peu interpellant, c'est-à-dire que Montesquieu parle en fait de common law et du modèle anglais, et en réalité, nous, on voit le modèle ultra-légicentriste, droit continental, codification.
Cela dit,
on l'associe très fortement à la codification. Alors,
cela dit, c'est pas incompatible, pour une raison simple, c'est que Montesquieu l'associe à la common law, mais en France, à l'époque, il y avait de la common law aussi, j'ose dire. C'est-à-dire que c'est par une sorte d'anachronisme qu'on oppose le common law et les figures continentales, alors qu'en France, il y avait beaucoup de coutumes, pays de droit coutumier, etc. Bon, droit romain, ratio scripta, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par une illusion rétrospective qu'on oppose les deux, à l'époque, hein, quand on parle de l'Ancien Régime. Deuxième élément, Montesquieu, quand il parle de la démocratie antique, il parle de lois rigides. Alors, c'est pas une codification, parce que ce sont donc des lois simples, mais bon, il pense aux 12 tables, par exemple. Enfin bon, peut-être une esquisse, peut-être, enfin, très simple. Hein. Donc, en fait, ce à quoi il pense pour le système républicain, ce sont bien des lois fixes et rigides qui forment une forme très simple de code. Hein. Alors, il faut pas opposer en ce sens le code et d'un côté et les lois touffues de l'autre. De même qu'en France, en régime coutumier, il y a eu une codification au XVe siècle, Montesquieu fait l'histoire de cette codification, etc. Donc il ne faut pas... Je crois que c'est là, c'est les clivages rétrospectifs qui faussent le jeu. Et je pense que si Montesquieu s'oppose à la codification, c'est à une forme de codification abstraite. Mais par ailleurs, il dit bien que quand il commence à y avoir trop d'incohérences dans la jurisprudence, il faut que le législateur, y compris le prince, mette un peu d'ordre. Et ça, il accepte que le rôle du souverain soit éventuellement d'écrire des ordonnances. Il n'est pas contre ce principe. Comme l'ordonnance de 1670 en matière criminelle, il peut avoir des critiques sur cette ordonnance, il y a trop de cas d'extension des cas royaux, c'est pas assez balisé, mais il n'est pas contre le principe de l'ordonnance. Donc, ce qui est très difficile avec Montesquieu, c'est qu'il ne dit jamais les choses clairement, enfin, de manière avérée, lorsqu'il s'agit de la France. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a jamais de texte où il prend position, voilà, comme ça, sur la lettre de cachet, sur l'ordonnance criminelle, sur l'ordonnance civile. Donc on est obligé de reconstituer les choses avec l'art d'écrire, ce qui rend les choses plus difficiles. Mais ce n'est pas la codification comme telle, c'est une certaine forme de codification abstraite qui suppose l'abolition des coutumes.
J'ai juste une question. J'ai entendu sur votre news. En Belgique, par exemple, nous avons plus d'autorité sur la figure du juge de la loi, alors qu'ils n'ont pas du tout eu cette défiance vis-à-vis des juges. Au contraire, en 1871, on fait totalement confiance aux juges. Donc, je me demande si c'est surtout la raison principale, parce que vous avez précisément soumis une hypothèse, la raison principale, c'est pas voir exclusivement les législateurs. Parce que chez nous, c'était vraiment ça, c'est de se dire on a confiance au juge, mais on ne trouve pas d'alternative au législatisme, et donc nous sommes obligés d'adopter la figure bouche de la loi.
Alors oui, c'est intéressant. Effectivement, je pense que c'est le côté souveraineté populaire. Si on veut vraiment que la souveraineté populaire s'exerce pleinement, il faut que le juge ne soit que la bouche de la loi. Parce que sinon, il ôterait en quelque sorte au peuple la substance même de sa souveraineté, ou en tout cas une partie de sa souveraineté. C'est-à-dire une forme de dépossession par le pouvoir des juges. Donc ça, on comprend bien que dans la répartition des pouvoirs, ce soit inacceptable. Hein, d'un point de vue républicain, stricto sensu, ça, on comprend très bien. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres voies possibles? Défiance, il faut parler de défiance, effectivement, mais chez Montesquieu, ça n'est pas ce que j'essaie de montrer, c'est que ce n'est pas seulement la défiance. Ce qu'il y a chez Beccaria, en revanche. Parce que chez Montesquieu, c'est vraiment la convenance au régime politique. Donc, là où le citoyen, nous dit-il, effectivement, est sacré, en fait, en République, il faut s'en tenir à la lettre de la loi. Et il y a effectivement un lien entre sacralisation du citoyen qui peut expliquer et légicentrisme. C'est parce que le citoyen est sacré, en sa vie, en ses biens, etc., qu'on sacralise le légicentrisme. En monarchie, il faut trouver l'esprit des lois, et pas s'en tenir à la lettre de la loi. Et ça demande du travail, le travail des juges. Et quand Montesquieu dit ça, il n'est pas défiant à l'égard des juges. Hein. Il considère qu'ils font leur travail, ils doivent faire leur travail de manière collégiale, en délibérant, en mûrissant leur réflexion. Il y a toute une réflexion sur la délibération judiciaire, bon, qu'il a lui-même vécu en tant que magistrat, hein, qu'il ne disqualifie pas du tout, de fait. Et ça, c'est effectivement lié au fait que dans ce modèle-là, le modèle monarchique, il y a évidemment... Il faut lutter contre la souveraineté absolue du monarque et non pas promouvoir la souveraineté absolue du peuple. Donc dès lors qu'on passe de lutter contre les abus de pouvoir du monarque à faire en sorte que la souveraineté de la volonté générale s'applique, il y a un changement de paradigme.
Donc est-ce que ce modèle du juge bouge de la loi présuppose, outre le modèle républicain et l'expression de la souveraineté générale, les jurys? En rien. Finalement, parce que
oui.
Dans cette idée que les tribunaux ne doivent pas être fixes, hein, justement que le jugement le soit, est-ce que c'est pas une association presque ontologique entre le juge doit être bouge à la loi et l'idée que ce juge en question est au minimum encadré par un jury qui lui varie pour préserver justement de la professionnalisation et de la casse et du modèle monarchique?
C'est une excellente question. Je ne suis pas du tout en mesure de répondre.
C'est une excellente question.
Effectivement, Montesquieu associe les systèmes, ça c'est sûr. Parce que dans le système de la démocratie antique, y avait certaines formes, vous l'avez appris lors du séminaire, de magistrature spécialisée, magistrature commerciale, et puis, etc. Bon, mais le système le plus répandu, c'était effectivement le tirage au sort. Donc, de la même façon qu'il y a les jurés. Alors, cela dit, Montesquieu, quand il parle d'abus de la loi, il pense donc au rôle juridictionnel de la Chambre des pairs. Et dans ce cas, alors je ne sais pas exactement comment les choses se passaient, mais en tout cas, si tirage au sort il y avait, c'était parmi les pairs. Donc, ce n'est pas non plus un tirage au sort. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Par ailleurs, Je crois qu'effectivement, c'est une vraie question. Il faudrait voir s'il faut distinguer jurisprudence criminelle et jurisprudence civile aussi. Parce que Montesquieu, quand il évoque les systèmes de jurés, il pense quand même surtout aux jurisprudences criminelles. Et quand il parle de la monarchie, il pense beaucoup aux jurisprudences, quand même beaucoup aux jurisprudences civiles. Quand on voit le passage juste après celui que je vous ai lu, c'est « les biens sont acquis, requis, etc. etc. »
Dans le texte... on parle du juge bouge de la loi. ce qu'on envisage comme mission pour le corps législatif, comme avantage, c'est juste de modérer la loi.
Oui, tout à fait.
Vous n'avez pas vraiment souligné, mais c'est quand même...
Tout à fait. Non, bien sûr. Non, mais vous avez parfaitement raison. J'ai pas eu le temps, j'ai été beaucoup trop vite là-dessus, mais vous avez parfaitement raison. C'est modérer la rigueur de la loi hein, lorsqu'elle est effectivement excessive. C'est toujours dans cet esprit-là. Et en faveur de la loi elle-même. Hein, donc c'est toujours au nom de la loi qu'on modère la loi. Alors on pourrait comparer ce système au système de l'arbitraire dans l'Ancien Régime, où effectivement les circonstances atténuantes permettent de modérer l'application des peines. Ça, Montesquieu ne fait pas de traité des circonstances atténuantes ou aggravantes, hein, mais il est clair qu'il n'y a pas de raison qu'il y soit opposé à ce système. Donc vous avez raison, c'est toujours dans le sens de la modération, et la modération pour Montesquieu, c'est la vertu cardinale du législateur, et c'est le but essentiel de la politique, en un sens. C'est-à-dire qu'il a écrit l'esprit des lois pour modérer le pouvoir. Hein. La modération, c'est le mot d'ordre de l'esprit des lois. Donc tout ce qu'il écrit, c'est effectivement dans l'idée que le despotisme, c'est l'absolu, et que les gouvernements modérés doivent ne pas basculer dans le despotisme. Pour cela, le rôle du juge doit être circonscrit.
Mais c'est toujours l'idée qu'on ne peut pas faire confiance à un individu pour la modération, puisque par définition, certains seront modérés et d'autres pas. Donc la modération doit être générale.
Instituée. Et instituée par des dispositifs et pas simplement...
Par un régime.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles...
C'est par la loi, donc la modération peut-être que par le législateur.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans le discours sur l'équité, Montesquieu évoquait les vertus du juge... Et ce thème disparaît complètement de l'esprit des lois. Parce que dans l'esprit des lois, on ne s'intéresse plus aux vertus, comme vous disiez, individuelles. On s'intéresse aux dispositifs institutionnels. Et à partir de là, les vertus sont contingentes.
Moi, j'avais aussi une petite question mais que je pose aussi à Valérie André. Je vous la pose parce que vous êtes habitué à lire les discours de l'époque. Et moi, j'avais... lu un article assez intéressant quand je préparais ma thèse sur le rôle de Montesquieu pendant la Révolution américaine, où un article écrit par Anne Amiel,
oui, tout à fait.
Qui expliquait bien que en fait, Montesquieu était vraiment une référence incontournable à la fois pour les fédéralistes et les antifédéralistes. C'était assez intéressant. Et je me demandais, puisque ça, vous avez fait référence au fait que Montesquieu était. Une référence pour les monarchistes, ou en tout cas ceux qui plaisaient pour une monarchie constitutionnelle, on va dire. Est-ce qu'il était aussi invoqué par les révolutionnaires français? Est-ce que la figure de Montesquieu était une figure autour de laquelle on pouvait tout le monde pouvait se retrouver, ou au contraire, est-ce que c'était plutôt un texte qui créait une...
Non, je vous laisse. Disons qu'au moment de la Révolution, on peut dire qu'il y a eu deux moments. Enfin, on décrit parfois ça comme ça de manière très caricaturale. Il y a eu le moment Montesquieu, puis le moment Rousseau. Enfin, c'est un peu caricatural, mais en 89, il y a eu tout un parti qui s'appelait les Monarchiens, donc qui militait en faveur du veto royal au moment où on repensait la monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais. Et Montesquieu avait dit, dans le fameux chapitre sur la Constitution d'Angleterre, que le monarque contribue à la faculté de légiférer, c'est là que les pouvoirs ne sont pas séparés, justement, par sa faculté, non pas de statuer, mais d'empêcher. C'est-à-dire par son droit de veto. Et dans l'équilibre des pouvoirs, c'est fondamental, le droit de veto du monarque, parce que sinon, ça serait le primat du législatif, et finalement, la liberté serait aussi perdue. Montesquieu ne se contente pas de... protéger, disons, le citoyen de l'abus de pouvoir du monarque, il essaye de protéger le monarque de l'abus de pouvoir venu des chambres, et en particulier des communes. Et donc, cette question du droit de veto royal a été très importante au moment des premiers débats révolutionnaires. Fallait-il imiter la Constitution d'Angleterre de ce point de vue-là? Et après, les débats, après 91, sont partis sur toute autre chose, et au moment de l'avènement de la République, Montesquieu est apparu un peu périmé. De ce point de vue-là, il donnait moins de ressources que Rousseau, notamment.
Moi, je rajouterais peut-être juste quelque chose rapidement à ce que vous venez de dire, qui finalement fait allusion à ce qu'on a dit toutes les deux, c'est sur la question de comment citer toujours des auteurs sans les avoir lus. Vous avez tout à fait remarqué qu'en effet, on peut avoir les pros et les contras et faire dire à Montesquieu, une chose et son contraire, mais c'est vrai de Rousseau aussi, comme c'est vrai de Voltaire. Hein. Vous connaissez la fameuse petite phrase reprise par Hugo dans Les Misérables, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. On va faire dire tout et n'importe quoi à des auteurs qu'on ne lit plus, mais qu'on ne fait que citer. Et donc, très clairement, il va y avoir une déformation même de la pensée de Rousseau sous la Terreur. Je dis que Rousseau n'est pas le grand-père de Robespierre non plus, hein, mais on va le tirer par là. On va tirer, si vous voulez, l'un comme l'autre, ces grands ténors partout. Et Montesquieu, bien entendu, également, je pense.
Vous savez, on faisait des esprits, hein, des abrégés, des recueils de maximes qui pouvait circuler. Alors, c'était surtout vrai pour Rousseau, parce que mettre l'esprit des lois en maxime, vous se levez tôt le matin, mais le contrat social s'est remis à circuler avec sous forme de maxime. Hein, et il y a une circulation des imprimés, vous en parliez, qui est très intéressante, sous forme de banderoles, sur des cartes à jouer, sur des formats très différents.
Et on sort des phrases du contexte, comme
les phrases sont totalement isolées, sur des banderoles, l'homme est né libre partout, il est dans les fers, vous voyez, ça... Voilà. Bien, hein, pour la révolution. Mais avec Montesquieu, c'est plus difficile de le faire. C'est plus difficile.
Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Moi, j'en aurais d'autres, mais comme il est tard et que on va partir. Mais je vous remercie beaucoup pour voir ces deux passionnants exposés, parce que, en tout cas, pour tous les juristes ici et les publicistes en particulier, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont abordés très, 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 très souvent quotidiennement, mais en réalité pas du tout sous cet angle, mais de les recontextualiser, de rappeler la dimension culturelle, etc., culturelle et comparatiste, et je crois très utile pour nous. Et donc, on est très contents parce qu'on vous a enregistré. Et si vous nous y autorisez, on mettra les enregistrements à la suite des autres sur le site, parce que ceux qui ne pouvaient pas être là peuvent entendre. Et nous, ça nous permet de retrouver les références. Si on peut avoir éventuellement le PowerPoint ou les textes, on peut les mettre aussi pour les étudiants et pour tous ceux qui...
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.